Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. On va parler des grands défis des managers avec le gestionnaire de crise le plus connu de France, c'est Arnaud Marion qui sera avec nous dans un instant. La santé mentale des salariés, c'est l'un des plus gros défis pour les DRH en 2022. On sera dans un instant avec Christophe Nguyen du cabinet Empreinte Humaine. Il a construit un baromètre, on va voir ça avec lui dans un instant. La mobilité, peut-être que vous avez envie de bouger mais vous ne savez pas comment faire. On va vous donner des tuyaux avec Elisabeth Dartigue, fondatrice de Mon Coach Mobilité. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif cette semaine, c'est Arnaud Marion, fondateur de l'Institut des Hautes Études en Gestion de Crise. Arnaud, bonjour, qui est avec nous depuis Londres, spécialiste des restructurations. Cette crise économique, justement, Arnaud, qu'on craignait, qu'on attendait avec des licenciements en masse, un mur de la dette, il est heureusement pas là. Ça va. On a même une crise de recrutement. C'est carrément l'inverse. C'est grâce à qui cette situation plutôt positive ?
Je crois qu'on a quand même un des effets collatéraux du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire que le quoi qu'il en coûte a permis la continuité, la fluidité. On a évité une chaîne de défauts de paiement et il y a eu tous les moyens financiers déjà pour que ça puisse continuer, que ce soit à travers les aides ou le chômage partiel ou le PGE. Mais d'un autre côté, je pense que c'est peut-être la première fois que l'État a vraiment joué son rôle historiquement. On a toujours attendu dans ce genre de moment que l'État agisse. Bah là, il a agi avant qu'on lui demande d'ailleurs. Et donc du coup, l'autre partie du job, elle a été faite par les dirigeants, par les managers et puis par tous ceux qui finalement ont continué à travailler.
Mais c'est-à-dire que quand on entend certains dirigeants ou même syndicats de patrons dire on a été trop assisté, l'État a été trop là, vous vous dites non, finalement ça a été un bon duo.
Oui, c'est un peu facile de dire il y a eu trop, c'est-à-dire que je pense que l'excès c'est certainement parce que on rentre dans des notions de contrôle et de contrainte. Il faudra prendre beaucoup de recul pour pouvoir critiquer éventuellement ce qui aura été fait, avec notamment les fermetures administratives ou autres. Mais je crois que, bien sûr, ça a été un état nounou, mais la critique, elle est un petit peu facile. S'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu tellement de PME et de TPE qui auraient mis la clé sous la porte. C'est pas pour rien qu'il y a eu 700 000 PGE de distribuer. C'est plutôt ces entreprises-là dont il faut parler.
Là, on se retrouve aujourd'hui face à un défi managérial et d'organisation dans les entreprises colossales. Vous êtes un grand chantre de la transformation au sein des organisations. Là, on est face à un chantier énorme. Vous trouvez les managers dans quel état d'esprit ? Prêts face à cette transformation ?
Oui, alors d'abord, ils ont, découvert sur le tas. J'ai pas dit sur le tard, mais en tout cas sur le tas, l'agilité, cette capacité d'adaptation. Et en fait, beaucoup ont pris un certain plaisir à être des managers de crise et des managers de l'impossible depuis mars 2020. Je pense que ça a révélé beaucoup de talents, ça a donné beaucoup d'énergie et on s'est aperçu que ce que l'on n'osait même pas imaginer a pu se produire et finalement que la réalité, elle était peut-être supérieure à ce que l'on avait pu espérer ou imaginer. Donc je crois que ça a ouvert le champ des possibles. Maintenant, il y a une deuxième phase. C'est qu'est-ce qui va se passer derrière pour rigidifier, robustifier les modèles économiques des entreprises. Et là, effectivement, on sera plus en mode gestion de crise, mais on va être en mode changement et implémentation du changement.
Oui, mais Arnaud, je reconnais bien là votre fond d'optimisme. Vous voyez toujours le verre à moitié plein, mais c'est normal parce que vous restructurez des boîtes, donc il faut bien avoir de l'espoir. Ça a créé aussi beaucoup de frustration. Certes, il y a des gens qui se sont démultipliés, qui se sont découverts des talents, mais qu'on n'a pas reconnus aussi.
Oui, mais en fait, on y est à ce moment de vérité. Vous savez, on lit tous les jours, vous-même vous en parlez, les entreprises ont du mal à recruter, où sont passés les travailleurs, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en France ou en Angleterre où je vis. On est dans ce moment de vérité où effectivement, ce dont on parlait, la marque employeur, donner du sens, etc., ben, ce ne sont pas des mots, ce n'est pas de la com, c'est vraiment le cœur de l'action. Et je crois que c'est ça qui est effectivement important. Il y a un besoin de reconnaissance de beaucoup de gens, de beaucoup de managers, de beaucoup de professions et tout simplement de beaucoup de professionnels.
Et face justement à ces énormes défis de recrutement que peuvent avoir les entreprises, on en voit certaines qui innovent. On a reçu la semaine dernière le DRH de Sor, qui est un concurrent de Veolia, qui lui par exemple a décidé de supprimer totalement la période d'essai. Est-ce que pour vous, il va falloir aussi innover dans les RH, apprendre, créer de nouvelles choses ?
Vous savez, je pense qu'il y a deux métiers qui ont été au cœur de cette réussite, ça a été les RH et les directeurs financiers. Alors, j'oublie pas les autres, j'oublie pas les directeurs de production, etc. Tout le monde a eu sa part, mais on n'en a jamais autant parlé. Et ils ont vraiment été au cœur de qu'est-ce qui est possible et comment on va rendre les choses possibles. Donc, la transformation des ressources humaines est à la hauteur des enjeux de transformation des entreprises. Donc, effectivement, faut changer les pratiques. Alors, ce dont on parle aujourd'hui, c'est toujours parfois un peu anecdotique, c'est plus de l'agilité, de la réaction. Mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui historiquement avec 4 générations au sein des entreprises. Hein. On a les boomers, les X, les Y, les Z. Les mentalités sont en train de changer. On a la puissance de la génération Z qui arrive. Hein. Il ne faut pas oublier que les Z et les millennials représenteront 75% de la population active en 2030. On voit qu'il y a ce mouvement, on voit qu'il va falloir apprendre à faire différemment. C'est ça la transformation souvent.
Faire différemment, Arnaud, et répondre à une exigence très forte. On demande là énormément au manager. Il ne doit pas seulement prendre des décisions stratégiques, mais il doit aussi s'occuper de ses salariés. Ça devient très compliqué. C'est ça qu'on apprend dans votre école, une école, si je puis dire, de management ?
Oui, moi, c'est une école qui est réservée aux dirigeants ou aux membres de comités de direction ou de comités exécutifs. Exactement. On va leur apprendre à raisonner différemment, à penser différemment, la gestion de crise, la gestion sur le terrain. On doit être au contact des gens. Et puis, à comment on peut implémenter le changement avec. Vous savez, vous connaissez mon adage, c'est le changement, c'est toujours avec et jamais contre, et c'est ça qui est effectivement important. Je pense qu'aujourd'hui, les managers sont à l'honneur dans les entreprises. On a vu d'ailleurs dans les organisations qu'il y avait eu une révélation de talent absolument extraordinaire et phénoménale.
En termes de changement dans les organisations, il y a bien sûr le télétravail. Vous voyez ça comment de votre œil extérieur ? Vous dites ça, c'est une très grosse révolution, ou finalement, c'est rien, c'est un changement, on s'adapte ?
La révolution, c'est que le télétravail a rendu possible ce que l'on pensait impossible. Donc, en tout cas, c'est une évolution. Et je pense qu'il faut distinguer de ce qui a été une contrainte au début, le télétravail, et de ce qui apparaît comme un confort pour beaucoup de salariés. Maintenant, moi, je ne suis pas pour le télétravail à 100%, parce qu'il faut garder la notion d'équipe. Hein. Une équipe, ce n'est pas des gens qui travaillent ensemble, ce sont des gens qui se font confiance. On a besoin d'une hybridation de la pensée. On a besoin de spontanéité, on a besoin de l'imprévu. Sans imprévu, on ne peut pas faire preuve de créativité et de réactivité dans les situations. Donc on a besoin d'avoir des périodes où il y a absolument toute l'équipe et pas du tout des équipes perlées au fil du temps.
Donc vous ne croyez pas à ces entreprises qui sont passées en 100% de télétravail ?
Bon, je pense qu'on a besoin d'un... elles reviendront à un lieu commun, un espace commun de culture d'entreprise. Vous savez, c'est comme d'ailleurs toutes ces entreprises, même complètement internet ou digitalisées, qui finalement reviennent à un moment à du physique. Je pense que on peut fonctionner sur beaucoup de choses. En revanche... ce que l'on fait en prenant un café ensemble, ce que l'on fait dans le social time, comme on dit, avant ou après une réunion, souvent, ce sont ces petites minutes-là qui sont des déclencheurs et qui permettent de parler d'un autre sujet auquel on n'avait pas pensé. Donc, je pense qu'on a besoin d'escalader davantage sur la pensée des autres. Quand on a fermé la fenêtre de l'ordinateur pour passer d'une visioconférence à une autre, on n'a plus ce moment-là.
Faire du collectif, c'est aussi le défi du manager. Un grand merci Arnaud Marion d'avoir été avec nous, fondateur de l'Institut des hautes études en gestion des crises. Je rappelle votre livre, 21 semaines pour se relever de la crise, c'est chez Erol. On va continuer ensemble à parler management en parlant santé mentale.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Les salariés français sont épuisés après 18 mois de crise sanitaire. Ils aspirent même à changer de vie. On est avec Christophe Nguyen. Bonjour.
Bonjour.
Président du cabinet Empreinte Humaine. Vous avez réalisé un baromètre sur la santé psychologique des salariés. C'est la 8e vague. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est que ça ne va pas. Ça ne va pas dans les entreprises.
Disons que ça ne va pas beaucoup mieux. Ça s'améliore un petit peu, en particulier avec cette rentrée. On a fait ça en septembre-octobre 2021. Il y a une amélioration pour les managers en particulier, pour qui le 100% télétravail s'est arrêté. Ils le vivaient le plus mal, hein, parce qu'ils étaient empêchés de bien manager en tant que tel. Et on voit que pour les salariés, ça s'est stabilisé. On est autour de 38% en tant que tel. Hein,
Vous considérez vraiment que le télétravail a eu un impact vraiment sur la santé mentale de l'ensemble des salariés, mais particulièrement sur les managers?
Oui, et particulièrement les conditions du télétravail, pas le télétravail en lui-même, parce qu'on voit que les gens aspirent toujours à en bénéficier, mais c'est la façon dont ça a été mis en place, la façon dont on a organisé et la façon finalement dont ça a été imposé en tant que tel qui a eu le plus d'effets délétères.
38% des salariés sont en situation de détresse psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ce mot détresse psychologique?
Oui. Alors la détresse psychologique, c'est pas une maladie, hein. C'est un indicateur de bonne santé mentale et qui recouvre plusieurs indicateurs, notamment de désespoir, de fatigue intense et de quelques symptômes de dépression. Donc c'est quelque chose de sérieux, qui est scientifique et qui est prédictif si ça dure trop longtemps dans le temps, de développement d'un certain nombre de troubles là, et de maladies.
C'est une sorte de signal faible ?
Oui, c'est ça. C'est un état psychologique. Par exemple, si vous êtes désespéré, très stressé pendant 2 ans, vous allez développer un certain nombre de problématiques. Vous allez d'abord mal dormir, mal manger, vous allez peut-être maigrir ou grossir. Et puis, vous pouvez tomber en dépression ou potentiellement aussi des burn-out, ce genre de choses.
Mais est-ce que vous arrivez à voir si c'est directement lié à la manière dont on travaille et lié à son activité professionnelle, ou c'est un état lié à la crise sanitaire de stress général ?
Oui. Alors les deux, bien entendu, parce que le salarié lui-même vit la fatigue pandémique comme nous tous.
Il a son environnement.
Mais ce qu'on voit, et d'ailleurs les indicateurs de Santé publique France montrent aussi qu'avec le temps, c'était plus les télétravailleurs qui étaient en difficulté psychologique, qui avaient des problématiques de santé psychologique, que d'autres personnes, et notamment les personnes qui étaient en chômage partiel, par exemple, par rapport au début de la crise. Donc on voit qu'il y a une évolution. Et ce que disent les salariés, surtout, parce qu'on a posé la question, c'est est-ce qu'ils attribuent les difficultés psychologiques qu'ils ont au travail ou à autre chose. Et ils disent pour 50% qu'ils ont de la difficulté psychologique liée à leur travail en lui-même. Et donc sur la moitié de ces gens-là, ça fait quand même plusieurs millions de personnes, ils disent qu'ils n'en parlent pas à l'entreprise de ces sujets-là. Par peur d'être stigmatisé, par peur de ne pas savoir d'ailleurs si on ne va pas leur renvoyer le ballon en disant que c'est des problèmes personnels, ou qu'ils ne savent pas finalement à qui s'adresser. Donc je crois qu'il y a un enjeu aussi pour 2022 d'aborder le sujet différemment. Il y a les assises de la santé mentale plutôt d'un point de vue public qui ont été lancées, et il y a une volonté, je crois, de déstigmatisation et de pédagogie, parce que les personnes aussi ne savent pas ce que c'est la santé mentale pour eux, et encore moins parfois au travail.
Ce terme même de santé mentale est assez nouveau. Avant, on parlait de bien-être. D'ailleurs, j'entends très peu maintenant ce terme. Maintenant, on parle vraiment de santé psychologique.
Oui, tout à fait. Alors, une époque, on a parlé de stress au travail, notamment dans la période des suicides qu'on a connus il y a quelques années en France. Puis après, on a parlé de risques psychosociaux, pour dire les choses un peu plus largement. Et il y a des termes qui sont apparus comme burn-out, ce genre de choses. Et après, qualité de vie au travail. Aujourd'hui, parler de qualité de vie au travail au regard de la situation, de l'état des gens, ça dissonne un petit peu. Donc, je crois que c'est une prise de conscience qui est un vrai sujet, qu'il faut l'aborder sereinement. Hein. Il ne s'agit pas, effectivement, d'agiter le chiffon rouge en tant que tel.
Et c'est important pour vous de mettre le bon mot, parce que oui. C'est vrai qu'avant on disait burn-out pour tout, on disait je peux être en burn-out une journée ou 10 minutes. C'est important de vraiment définir des états psychologiques différents avec peut-être une gradation en fait.
Oui, c'est ça. Et je crois que si on veut agir en prévention, c'est-à-dire en amont et pas juste en réaction quand on a un problème, il faut utiliser les bons termes. Si un DRH parle avec ses représentants du personnel et qu'il y en a un côté qui dit « moi, il y a du stress positif, c'est bon pour le challenge » et de l'autre côté c'est souffrance, c'est burn-out, on s'entend pas. Et on n'arrivera pas à avancer. Et je crois qu'il faut développer une culture commune, savoir ce que c'est, comment on peut mettre en place des actions de sécurisation, de sécurité psychologique pour les gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur bien-être psychologique. Et si on ne le sait pas, effectivement, je crois qu'il faut travailler sur, déjà, parler des mots tels qu'ils sont.
Et pour vous, c'est le travail de qui exactement, la santé mentale des salariés ?
De tous. C'est-à-dire qu'on a écrit un livre, La santé psychologique au travail Covid-19, qui montre que si on veut agir sur ce sujet, il faut agir à la fois au niveau de l'organisation et du top management. S'ils n'en parlent jamais de ce sujet, ben forcément, il gérera les conséquences et les difficultés. Il faut que le management soit aligné, et pour lui, ce soit aussi quelque chose de prioritaire en lien avec la production et la productivité, parce qu'on ne vit pas dans le monde des bisounours. Mais la santé mentale, c'est aussi bien travailler. D'ailleurs, la définition de l'OMS le dit. Avoir une bonne santé mentale, c'est pouvoir répondre aux exigences de la vie et être productif dans son travail. Donc, on voit bien qu'il y a un lien. Et puis, aussi, les individus, il faut qu'ils soient responsables. Alors, on ne peut pas leur jeter non plus la pierre en tant que tel, mais ils ont une responsabilité et même quand ça va bien, ils peuvent faire des choses pour leurs collègues ou pour l'entreprise. Ils ne peuvent pas non plus attendre tout de leur
management. Mais quand vous dites ça, est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi une responsabilité de communication personnelle, de manière dont on s'adresse aux autres, mais aussi soi-même d'alerte quand ça ne va pas ?
Oui. Ouais, je crois qu'il y a une question de posture, effectivement. On ne peut pas non plus utiliser des termes, vous avez dit burn-out, c'est burn-out partout, burn-out nulle part. C'est un peu comme Pierre et le loup, à force d'utiliser le terme. C'est comme harcèlement. Il y a des vrais sujets qui parfois sont noyés par rapport à ça, ou déniés parce que finalement, on en parle trop par rapport à ça. Il faut utiliser les bons termes. Et moi, je pense qu'il y a une culture aussi à développer. Alors, vous êtes journaliste, je ne veux pas jeter la pierre, mais quand on entend des termes comme c'est la psychose en France, ou il est complètement paranoïaque, on utilise des termes psychiatriques qui finalement ne représentent pas la vraie réalité des choses. Et donc, il faut des vrais termes, quoi. C'est des termes médicaux, c'est des termes scientifiques qu'il faut utiliser au bon endroit. Alors après, dans la vie de tous les jours, je pense qu'il faut pouvoir éduquer aussi les salariés. Donc là, les entreprises ont un rôle à jouer. Si elles veulent faire remonter les vrais sujets et agir en prévention et savoir, j'ai envie de dire, pas juste en posture défensive parce qu'on a un problème juridique qui est sous notre nez, c'est aussi de se dire que c'est un enjeu, encore plus en 2022 avec la sortie de cette crise, de performance. Parce que les salariés le disent dans les sondages ou dans notre livre, il y a un lien très fort. Plus les gens sont bien et ils déclarent être bien psychologiquement, c'est-à-dire reposés, reconnus, soutenus, etc., eh bien, plus ils sont performants et plus ils s'engagent envers l'entreprise. Et vu cette crise, il y a un passif, il y a un héritage et les salariés vont se souvenir aussi. Il y a une empreinte humaine, c'est mon expression, de ce qui s'est passé pendant cette crise et du coup, d'où les sujets de reconversion qu'on voit aujourd'hui, les sujets de démission.
Il y a des gens qui sont arrivés à la rupture.
Ou qui veulent autre chose dans leur vie. Ils ont replacé le travail autrement et les deux tiers disent qu'ils ne voudront plus travailler dans des environnements où leur santé mentale, leur bien-être psychologique peut être menacé. Et donc on voit que je pense que ça va être un moteur professionnel et les entreprises, si elles veulent être attractives, elles vont devoir aborder ce sujet. Pas sous le sujet burn-out, harcèlement, même s'il faut montrer qu'on fait des choses.
Pour vous, c'est un enjeu d'attractivité dans le recrutement, de dire ici, on fait attention,
on est... bien-être psychologique.
Le problème, c'est toujours la parole contre la preuve. Et derrière, il faut évidemment que ça suive. Oui. Vous avez l'impression, dans les difficultés psychologiques des travailleurs, que c'est la quantité de travail, c'est la reconnaissance, c'est la manière dont on parle. Qu'est-ce qui pose le plus problème ?
Alors on va dire qu'il y a déjà un sujet de fond, c'est une intensification de la charge de travail et dont les télétravailleurs, en grande majorité hein, en tant que tels, ont vécu comme étant, donc qui s'est intensifié, notamment avec le télétravail et la difficulté à distinguer la vie pro, la vie perso, ce qu'on appelle le blurring, hein, cette confusion des temps qui a épuisé les gens, parce qu'ils ne se reposaient pas même quand ils n'étaient plus au travail par exemple. La question de la reconnaissance effectivement à distance, la plupart des télétravailleurs disent je me sens moins reconnu, j'ai moins d'occasion d'avoir un feedback sur mon travail ou que de visibilité de mon effort et de mon engagement. C'est effectivement la question de l'équité. Là, aujourd'hui, se pose la question de qui a droit au télétravail ou pas. Mmh. Et donc ça, l'équité, c'est pas l'égalité. Hein. Non, c'est quels sont les critères qui sont justifiés pour... Voilà. C'est aussi l'impression de travailler de façon dégradée. Et ça, beaucoup de gens l'ont vécu avec cette crise, c'est-à-dire en mode crise. Tout le temps, qui est responsable de quoi, qui se réfère à quoi, parce que à distance, j'ai envie de dire, derrière son ordi, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est cette notion, effectivement, de pouvoir faire un boulot dont je suis fier, dont je vois l'aboutissement. Donc la question du sens derrière, qui est centrale, elle existait déjà, bien sûr, avant cette crise, la question du sens. Est-ce que j'appartiens à une entreprise socialement, écologiquement responsable? Est-ce que ce que je fais dans mon travail est utile? Mais avec le confinement et avec cette distanciation, les gens, finalement, ont vu que écarté du collectif.
C'est plus seulement un but, le sens, ça a un impact sur la psychologie
oui,
de chacun.
Oui, ça l'a toujours eu.
Ouais. Merci beaucoup Christophe Nguyen d'être venu nous voir, président du cabinet Empreinte Humaine. On se reverra pour le 9e baromètre pour voir si ça va mieux. Soyons optimistes, on va parler de mobilité.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Peut-être que vous avez la bougeotte, envie de changer d'entreprise ou tout simplement de poste. La mobilité interne, ça fonctionne aussi. On va en parler avec Elisabeth Dartigues. Bonjour, fondatrice de Mon Coach Mobilité. Elisabeth, vous avez été DRH chez Atos, chez Atlantique, chez Tupperware. Et puis après, vous avez fait du conseil. Ça vous plaisait plus ?
Alors, pas du tout. J'ai adoré mon métier de DRH, mais c'est un métier qui est fatigant. Et quand je les vois aujourd'hui, je reconnais que c'est un métier encore plus exceptionnel, mais vraiment très, très fatigant. Et aujourd'hui, ils sont vraiment en plus sur des enjeux, justement, de mobilité qui sont assez importants, puisqu'ils sont tous en transformation. Et qui dit transformation, dit à chaque fois à la fin des mobilités, qu'elles soient internes ou qu'elles soient externes.
Alors vous avez créé justement une application pour aider les salariés à bouger. Il y avait pas de solution en interne, selon vous, pour aider à la mobilité?
Alors, c'est vraiment, en tant que DRH, moi, il y avait quelque chose qui me manquait. C'était en fait, il y avait plusieurs choses. D'une part, que les salariés soient responsables de leur mobilité. Et en fait, c'est très difficile. Les DRH mettent beaucoup de solutions, des job boards, des ateliers, etc. pour les mobilités. Mais comment faire pour que les salariés soient, eux, responsables? Ça, c'est la première chose. Et puis aussi, de permettre, en fait, que les rôles soient extrêmement clairs entre les DRH, les salariés et le manager.
Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, lui, le salarié?
Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est une solution assez inédite où, en fait, on a utilisé une application de coaching digital, un petit peu comme votre application de sport, ouais, qui vous dit chaque semaine ce que vous avez à faire. Et ça vous permet, comme ça, en fait, si vous voulez, de donner aux salariés eh bien, tout le processus de la mobilité.
Mais c'est-à-dire que le salarié il vous dit « je voudrais bouger à telle échéance » et vous lui faites un plan?
Alors, on est face à plusieurs solutions. Ou bien en mobilité interne, et souvent c'est, il y a une transformation, vous devez bouger, vous avez 3, 6 mois pour bouger.
Donc c'est pas de votre plein gré.
Exactement, c'est plutôt subi. Mmh. Ou bien on va avoir aujourd'hui des salariés qui souhaitent bouger. Je rappelle que 45% des salariés voulaient bouger avant la crise, donc je sais pas si vous imaginez, mais ça a beaucoup
augmenté.
Ça s'est
pas arrangé.
Ouais. Ça s'est pas arrangé. Mais on accompagne également sur les mobilités externes.
Ce qui veut dire que ça peut être mon entreprise qui paye ou moi?
Non, en général, c'est toujours l'entreprise ou les institutions quand nous travaillons, par exemple, avec le ministère des Armées. Mais quand je travaille avec la banque, avec l'énergie, avec l'industrie, c'est toujours les industries qui payent. Pourquoi? Parce qu'il faut aujourd'hui absolument professionnaliser la mobilité. Ça ne s'invente pas, en fait. Vous ne pouvez pas tout d'un coup dire « c'est bon, je suis un spécialiste de la mobilité ». Je rappelle en plus qu'il y a 70% des postes qui sont sur le marché caché. Comment vous faites pour faire du networking si vous n'aidez pas et vous ne formez pas les collaborateurs? Donc, cette application, elle va effectivement aider à driver les collaborateurs. On va avoir des ateliers qui vont permettre, en fait, de vraiment travailler ce qu'il y a dans l'application.
Il y a des rencontres,
Sinon, ça ne peut pas marcher. Et puis, donc, cette partie s'occupe vraiment de la mécanique de la mobilité. Et on va avoir des coachs certifiés qui, eux, vont s'occuper des enjeux personnels. la confiance en soi, la posture, le positionnement. Résultat des courses, en fait, le collaborateur devient purement acteur. Il a quelqu'un sur ses enjeux, il a les ateliers, l'application pour la problématique de tout ce qui... comment faire mon CV, comment faire une bonne présentation, etc. Et du coup, les choses sont extrêmement bien séparées. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir une très bonne efficacité, puisque 75% des salariés que nous accompagnons retrouvent un emploi en moins de 4 mois.
Et vous parliez justement de l'armée, vous avez participé au programme Défense Mobilité, oui. Vous avez aidé un certain nombre de femmes, de militaires à trouver un emploi, des profils, j'imagine, de personnes qui étaient relativement éloignées de l'emploi.
Alors exactement, puisque c'était des femmes qui n'avaient pas travaillé depuis un certain temps, je dis des femmes parce que les conjointes militaires c'est beaucoup des femmes, oui. Et nous avions des hommes. Et en fait, ça c'était très intéressant, en fait l'armée nous a demandé de construire un programme spécifique pour eux en fait, parce que l'objectif c'est de retrouver très rapidement un emploi. Donc en mettant les enjeux de l'armée à l'intérieur du programme, en adaptant en permanence. C'est ce que nous faisons d'ailleurs chez nos autres clients.
Et vous dites 4 mois, c'est un peu votre promesse marketing, de dire en 4 mois on peut réussir à retrouver un emploi?
Alors moi ma promesse c'est en 4 mois on trouve un emploi si la personne a un projet professionnel à peu près clair. Si elle n'a pas de projet professionnel, 6 mois est une bonne durée. En revanche, durer trop longtemps en fait n'est pas si facile pour le collaborateur parce qu'il s'épuise. Il y a un véritable problème d'endurance. Et aujourd'hui, j'ai même des entreprises qui me demandent des programmes de 3 mois, en particulier pour les jeunes, parce que les jeunes s'épuisent plus vite. Donc on est vraiment sur des rythmes très différents. En revanche, ce que moi je rappelle, c'est très bien, mais ça demande quand même toujours de travailler pendant la semaine. Donc on va avoir de 5 heures à 20 heures par semaine de travail individuel en fonction de la durée qu'on nous donne.
Merci beaucoup Elisabeth Dartigue d'être venue parler avec nous. Mobilité, fondatrice de Mon Coach Mobilité, une application, mais il y a aussi des rencontres en physique et des coachs qui vous aident. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.
Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.